3. Et sur la radio Vinny Times, le Classic Rock Radio, Shady Young, le titre Tears in Lies sur le 113 Rock, sur la radio Vinny Times, le Classic Rock Radio. Donc, comme prévu, comme promis, comme chaque mardi soir, on a le 10 Minutes with Butch, made in Alger. En tout cas, il est là en direct avec nous, le Butch Rock, pour nous conter la partie 4 de l'histoire de Black Sabbath. Butch, bonsoir.
Bonsoir, Harag.
Ça va,
bonsoir,
tu vas.
Bonsoir,
auditeurs. Ouais, ça va, tu vas bien?
Ça va, et toi?
Ouais, tranquillement, ça va, super, bah, on fait avec, il fait chaud ici. Si vous avez de la pluie, c'est, vous avez de la chance, parce que nous, ici, il fait vraiment lourd.
Bah, justement, il y a 10 minutes, il pleuvait à
Assaut.
Il pleuvait des cordes.
Ouais, ouais.
Et puis maintenant, là, c'est tout petit, petitement, ça commence à devenir un peu plus chaud.
Ah là, tu vas avoir un gros arc-en-ciel qui va traverser Alger, je le sens bien.
Ouais, un beau rainbow.
Un beau rainbow, exactement. Allez, on continue la partie 4, Butch, ce soir, donc, pour nous conter l'histoire. Allez, on y va.
Alors, donc, on s'était arrêté sur 93 et cette discussion entre Ozzy Osbourne, qui avait rejoint ses compères Tony Iommi, Bill Ward et Geezer Butler lors d'un concert, parce que Dio déjà avait refusé de faire la première partie en tant que membre de Black Sabbath avec Vinnie Appice à l'époque,
ouais,
de la tournée d'adieu de Ozzy Osbourne. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Ronnie James Dio claque la porte.
Ah.
Vinnie Appice le suit.
Ah bah oui.
Et là, ils sont un peu embêtés, les gars, hein, quand même. Bon, malgré tout, quand même, ils ont pu rattraper le coup lors de ce concert avec un chanteur qui est complètement inattendu. C'est quand même Rob Halford, hein.
Ouais.
À Costa Mesa.
Ouais, Costa Mesa, ouais.
Donc on aura justement cette belle primeur de voir des titres comme Neon Nights, certains morceaux justement du Sabbath d'Ozzy. Et d'ailleurs Rob Halford remplacera à nouveau Ozzy en 2004 parce que ce dernier était grippé. Je pense qu'il y a quelques vidéos qui circulent sur le net concernant ça.
Oui, enfin, je sais que la première vidéo, j'avais vu le live complet, il était sorti. Je sais plus si c'était encore sur cassette VHS à l'époque. À l'époque, quand on faisait du trading, enfin du tape trading,
ouais,
on échangeait des listes et des bootlegs et tout. Je sais que j'ai vu cette vidéo là. D'ailleurs, j'avais dit la semaine dernière que c'était Sepultura. Oui, c'était bien évidemment Sepultura qui avait ouvert.
Il y a un célèbre justement un bootleg qui s'appelle Ozzy Meets the Priest.
Ok.
Sorti en 92, live de Costa Mesa.
Ah ben voilà.
En audio et justement en vidéo aussi, je crois.
Ouais.
Donc Black Sabbath se retrouve sans chanteur et ils ont récupéré quand même Bill Ward, mais se disent pourquoi pas, on s'est bien senti cette fois avec Ozzy, ce n'est plus le même Ozzy des années 70 qui était complètement qui avait le nez enfariné, qui était complètement une épave, qui avait justement quitté un temps Black Sabbath en 78 avant un retour inespéré, pour enregistrer un morceau, un album qui s'appelle Never Say Die, qui est très mauvais, soit dit en passant, et de se faire virer l'année d'après en 79 et se faire remplacer par Ronnie James Dio. Donc à cette période-là, ils se disent bon, on va faire ça, on se prépare pour une tournée et un album de Black Sabbath avec Ozzy Osbourne. Mais malheureusement, Ozzy change d'avis. Il ne veut pas, il veut prendre sa retraite. Il est décidé à prendre sa retraite. Mais je pense qu'un petit diablotin, plutôt une petite diablotine qui s'appelle Sharon Osbourne, plutôt Sharon Arden, de son nom de jeune fille, même si elle est mariée à l'époque avec Ozzy, lui dit écoute, laisse tomber ces baltringues, tu leur dis que tu prends ta retraite et après, tu reviens. Et c'est ce qui s'est passé en 95, et ça c'est ma supposition bien sûr. En 95, Ozzy revient avec un album qui s'appelle Osmosis.
Oh,
avec. Putain, c'est énorme cet album.
Et les canons disques. Ouais.
Ouais. Avec des collaborations de Steve Vai à l'écriture et de Lemmy, Kingmaster, qui avait déjà collaboré avec Ozzy Osbourne dans le précédent album.
C'est le fameux line-up où on trouve Mike Bordin de Face No More à la batterie, Turillo à la basse et comment il s'appelle, Zakk Wylde à la guitare. Je crois que c'est ça.
Turillo, c'était
c'est le line-up de la tournée de ça, non? De mémoire.
Non, Zakk Wylde était parti en 95 après la tournée.
On est en quelle année là? 94, tu m'as dit? 95. Ouais. Ok.
Donc Zach Wilde était parti, donc il s'est fait remplacer par Joe Holmes. Et le nom.
Ah, Joe Holmes. Oh là là, Joe Holmes, je l'ai vu avec David Lee Roth à Paris. Ouais. C'était l'ancien guitariste de Lizzie Borden.
Et le batteur à l'époque, c'était Dean Castronovo.
Ah, ok, ok, d'accord. Ah,
Dean Castronovo, ouais. Qui est connu aussi pour ses collaborations avec Marty Friedman.
Oui.
Ou encore Steve Vai.
Oui, Marty Friedman chez, sur les albums du label Shrapnel Records. Ouais, ouais, bien évidemment, bien sûr, bien sûr, bien
mais
sûr.
Aussi,
et chez Journey aussi. Il a joué chez Journey.
Cacophonie.
Et Cacophonie, oui.
Le groupe qu'il avait formé avec Jason Becker.
Oui, Marty Friedman, ouais, il a aussi joué comment il s'appelle, chez Journey aussi, il a fait un tour.
Voilà,
ouais, ouais.
Mais malgré tout, Black Sabbath,
à moins qu'il y ait encore.
Oui, malgré tout, donc ils se disent, bon, Ozzy va prendre sa retraite, bon, on va reprendre ce bon vieux Tony Martin. Et le premier album avec ce retour de Tony Martin, c'est Cross Purposes.
Ouais.
Cross Purposes, qui est un très bon album de heavy metal, plutôt hard rock, plus hard rock que heavy metal.
Bah justement, c'est le titre de ce soir, tu vois.
Il y aura une bouse après. Bon, je le dis ça avec le recul, même si c'est le premier album de Black Sabbath que j'ai écouté entièrement. C'est Forbidden. Un album qui est très pauvrement produit, avec la participation d'Ice-T. Et ce qui a fait un peu mal, ça a été, c'est peut-être l'utilisation, on va dire, assez, une sous-utilisation de Cozy Powell à la batterie, qui avait rejoint le groupe, justement, Black Sabbath, à cette époque. Et, Forbidden, ça a été pour les années 90, on va dire pour 95, je pense, hein, je le pense. Hein, c'est en fait, on a un flop 10 des mauvais albums de Black Sabbath. Et justement, Forbidden, on peut très bien, il est dans le top 3, à savoir entre Technical Ecstasy et Never Say Die. Même si on peut aussi voir. Ces trois-là sont vraiment mauvais. Donc, c'est une très mauvaise note. Martin repart à nouveau.
Ouais.
Trois années passeront avant une nouvelle reformation du Black Sabbath originel. Ce Black Sabbath-là, ce sera ce programme, justement, une tournée, un concert à Birmingham, qui s'appelle Réunion, avec deux nouveaux titres, Psychoman, le deuxième titre m'échappe. Mais ça démontre que Black Sabbath est toujours là. Ça faisait 20 ans que Ozzy n'avait pas vraiment fait enregistrer un nouveau matériel, Selling My Soul. Un nouveau matériel avec Black Sabbath, mais l'alchimie est encore là. On le sent bien. D'ailleurs, Ozzy Osbourne collabora à nouveau avec Tony Iommi pour son premier album solo. Un album solo qui était assez particulier parce que, justement, Tony Iommi avait engagé beaucoup de grands noms de l'époque. Il y avait Henry Rollins de Black Flag et de Rollins Band. Il y avait Meat du groupe Skunk Anansie. Il y avait Billy Idol. Il y avait Ian Astbury du groupe The Cult. Ou encore Phil Anselmo et Peter Steele. Et même Billy Corgan, faut pas l'oublier lui aussi. Et
tous des profils tout à fait différents.
Tous des profils tout à fait différents, mais ouais. Qui ont tous été influencés par Black Sabbath.
Mais je crois que tout le monde a été influencé par Black Sabbath. En fait,
tout le monde.
Tout l'histoire du hard rock et du heavy metal, alors ça c'est clair, c'est net quoi. Voilà.
Et peut-être même et la pop culture bien sûr.
Ouais, bien sûr, ouais. Et beaucoup plus encore, hein. Parce que j'ai déjà lu des interviews de Robert Smith, chanteur de The Cure, où il fait référence à Phil Lizzy et à Black Sabbath aussi. Ça c'est arrivé. Et d'autres styles aussi, ça, où ils font référence à Black Sabbath, notamment aux années 70, l'Angleterre, enfin ce que l'Angleterre a apporté au monde du rock quoi. Entre Black Sabbath, Led Zeppelin et bien évidemment les Beatles et tout ça, etc. quoi. C'est juste incroyable quoi.
Ah oui. Et bien sûr, une nouvelle réunion se fera, bien sûr, après cette réunion de 98. Elle se fera en 2004-2005. Justement, Black Sabbath était monté avec Rob Halford en remplacement d'Ozzy parce qu'il était grippé. On en a déjà parlé. C'était pour le Download Festival. On se disait peut-être que Black Sabbath songe sérieusement à faire un album. Eh bien, il n'en était rien parce que Ozzy Osbourne continuait à faire cavalier seul. On écoute par exemple à l'écoute par exemple de Down to Earth avec le fameux line-up Mike Bordin et Robert Trujillo dans la section rythmique et bien sûr avec l'inamovible Zakk Wylde.
Voilà, donc c'est ça que je parlais tout à l'heure. Donc c'est là, oui. Donc tu m'as bien remis les dates. Ok, ça marche.
Voilà. Puis un album en 2007, c'était Black Rain. Après le très très mauvais album de reprise de 2005 d'Ozzy Osbourne, mais qui quand même avait un sacré line-up, dont Jerry Cantrell d'Alice in Chains.
Ouais.
C'est quand même cette période-là, c'était plus Ozzy qui était actif au niveau de nouveaux matériels par rapport à Black Sabbath et Tony Iommi qui lui aussi faisait ses petits albums solo de son côté. En 2004, les Depth Sessions avec Glenn Hughes au chant. Une nouvelle collaboration avec Glenn Hughes et Tony Iommi. L'année d'après, c'est Fused 2005, qui est un excellent album que je conseille aux auditeurs. Parce que si vous voulez aussi écouter un peu ce que fait tout seul Tony Iommi, ça peut vous intéresser. Et puis, justement, il s'est passé quand même 6 ans. Le 11 novembre 2011, une conférence de presse, Bill Ward, Geezer Butler, Tony Iommi et Ozzy Osbourne sont assis à une table pour dire, voilà, nous sommes reformés pour cette fois sortir un album studio. Et bien sûr une tournée mondiale. L'album 13, 13, c'est du Black Sabbath. On peut
Ouais.
pas. Tu fermes les yeux, tu écoutes le premier titre, God is Dead, ou encore Metandemic, ou encore The Loner, c'est du Black Sabbath. C'est ce Black Sabbath des années 70 qui, limite, n'a pas changé depuis 40 ans
C'est le même.
et qui est toujours aussi direct.
Ouais, c'est le même.
Et aussi tranchant.
Voilà, et puis
Mais
Ozzy.
malheureusement.
Ouais, et puis, mais Ozzy disait dans ses interviews que il était pas sûr de Bill Ward, quoi. Il était vraiment pas sûr de Bill Ward, quoi. Qui pourrait rester,
Voilà,
quoi.
et justement, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, on a justement cette confirmation. Bill Ward ne fera pas partie de l'enregistrement de l'album. Et ils vont quand même engager un remplaçant de luxe qui est Tim Comerford, qui a été le batteur de Rage Against the Machine.
Non mais attends, alors attends. C'est pas Tony Clouftos, t'es sûr?
Non. Tony Clouftos, ça a été pour la tournée.
Ah
Mais
d'accord,
Tim
ok.
Comerford a été engagé pour l'album 13,
Ah ok.
dont il a géré l'entièreté de la section batterie.
D'accord. Oui, c'était pour les live sessions, effectivement, pour la tournée mondiale, c'était Tony Clouftos, le batteur de Rob Zombie à l'époque.
Voilà, donc.
Ouais, il envoie lui. Hein.
Ça quand même, ça impose, hein. Black Sabbath a quand même su avoir des remplaçants qui ont pu assurer la pérennité du groupe.
Ouais, c'est vrai.
S'en suivra que deux albums solo, deux albums live quand même, Music for the Masses, sorti en 2013, si je ne me trompe pas, et puis le dernier album, The End.
Ouais, c'est la fin.
Qui marquait pas l'arrêt total de ce line-up, le line-up original, même si on va pas chipoter parce que Bill Ward n'est pas dans le groupe, mais c'est quand même le line-up original.
Ouais, Bill Ward, c'est important. C'est important. Comme tu l'as dit, dans la partie 2, tu le précises que le batteur, c'est le mec qui est caché, c'est le mec qu'on voit pas, quoi. Donc, on n'en parlait pas. Et puis finalement, au fur et à mesure du temps et des années de l'évolution du hard rock, le batteur a repris une place vraiment prépondérante, quoi. Et les batteurs ont commencé à se faire entendre un peu plus, quoi, effectivement. Oui.
Exactement. Et donc, voilà, c'est quand même 50 ans d'histoire qui se terminent dans la même ville qui les a vus naître,
Ouais.
Birmingham,
Ouais.
The Black Country, justement, dont est originaire par exemple Robert Plant, ou encore Lemmy Kilmister, et bien d'autres groupes. Quand même, c'est ça, c'est. Donc, finalement, je pense, et la conclusion, moi je vous le dis. Le heavy metal est une musique made in Birmingham, England.
Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Allô?
Allô?
Ouais. Je suis là.
Comme je te l'ai dit, je me répète peut-être, mais c'est la conclusion. 50 ans d'histoire, Black Sabbath a tout simplement changé la face de la musique et du monde de la musique avec déjà le premier album. Et bien sûr, cette fin en apothéose dans un dernier concert dans leur ville natale à Birmingham, où justement on réécoute certains morceaux qui restent quand même emblématiques, certains morceaux qui font le son de Black Sabbath. C'est vrai qu'on regrette la sous-utilisation de l'album 13, mais on saluera quand même certains morceaux qui n'avaient pas été joués depuis plus de 40 ans, comme des albums comme des titres de l'album 4, Behind the Sun. Ou encore, bon, c'est vrai qu'après c'était des bribes comme Supernote ou encore Sabbath Bloody Sabbath.
Ouais.
Mais cela reste ce souvenir de cet album qui un jour a changé pour toujours la face de la musique.
Ouais. Ils ont apporté beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire que toute la vague qui va naître derrière est juste incroyable, quoi. Effectivement. Et encore aujourd'hui, quand on parle de heavy metal, il y a toujours le nom Black Sabbath qui arrive au milieu, quoi. C'est clair.
Bah, on va pas parler d'Henri Dess ou de Chantal Goya en heavy metal, même si.
Non. Ça ira.
Même si les matériaux sont fans d'Henri Dess.
Et justement, pour clore un petit peu donc cette partie 4, je t'ai envoyé cette semaine un lien d'un site assez particulier, quoi. Qui est très intéressant.
Ouais. Ah, ça, justement, il faut qu'on en parle. C'est justement une rétrospective concernant Black Sabbath.
Ouais, c'est une exposition donc en fait qui a lieu en ce moment à Birmingham, qui a été ouverte le 26 juin dernier et qui se terminera le 29 septembre prochain. Donc à Birmingham, il y a l'exposition Black Sabbath. Je peux vous dire, je mettrai le lien sur la page Facebook de 113 Rock, ainsi qu'on en parlera sur la page Facebook de Vinyl Times et ainsi que sur le site Vinyl Times. Vous aurez les informations. C'est juste une exposition de folie, quoi. Comme dirait Zineb d'Alger, notre confrère Zineb, c'est un truc de malade. Il y a des photos énormes, il y a des objets personnels, il y a toute l'histoire de Black Sabbath. Et maintenant, ont-ils les menhirs?
Ah oui, les fameux menhirs trop gros pour être déplacés.
Voilà,
pour
c'est ça.
Pour la tournée Born Again.
Voilà. Donc, oui, il y a cette exposition pour terminer en beauté, justement, cette partie 4 et la story Black Sabbath que tu nous comptes depuis 3 semaines, 4 semaines. C'est juste, elle est fantastique, quoi. Je mettrai le lien, bien évidemment. Vous aurez le lien sur le podcast après l'émission et ainsi que sur les pages.
Vous avez intérêt à y aller, hein.
Ah, c'est
juste qu'au 29 septembre.
Ouais. Je pense qu'il va falloir aller à Birmingham. Il va falloir trouver un week-end pour aller à Birmingham. Sauf qu'il n'y a pas la plage, quoi.
Honnêtement, si j'avais un lieu où je voudrais partir en vacances pour une semaine, ce serait bien Birmingham.
Bon, tu vois l'exposition et après, qu'est-ce que tu vois? Tu vois les usines?
Écoute, tu sais ce qui est fascinant, justement, concernant une ville pareille, c'est que, justement, de cette ville est né deux, trois groupes de légendes,
oui.
des artistes de légendes, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Il y a Robert Plant qui est né là-bas.
D'accord.
Il y a bien sûr les nos quatre compères de Black Sabbath, nos quatre amis de Black Sabbath, mais il y a aussi Motorhead, il y a aussi Lenny. Donc, il faut. Je pense que c'est assez fascinant de voir une ville pareille. Qu'est-ce qu'elle a? Comment a-t-elle justement fait en sorte de briller, que son nom brille dans le monde de la musique?
Et pas certain non plus, mais je crois que Napalm Death est de Birmingham aussi. À vérifier, mais je pense que Napalm Death est de Birmingham aussi, quoi. Enfin, Shannon Berry, en tout cas, le bassiste, il est de là-bas, lui. Je crois qu'il est originaire de là-bas. Ouais.
Bah, tout comme par exemple, je pense que n'importe quel rocker voudrait par exemple visiter Seattle, le siège du grunge.
Ouais. J'y suis allé à Seattle, ouais. J'y suis allé, ouais. J'y suis pas allé pour le grunge, mais je suis allé pour Queensryche. Enfin bon. Mais c'est vrai que ça a été l'emblème, ouais, effectivement.
Bah, c'est la maison de Nirvana.
La maison Sub Pop.
Soundgarden, Heart, le groupe Desert Wilson. Donc, il y a de quoi susciter l'intérêt.
Ouais. Bah écoute, Butch, merci beaucoup en tout cas. C'est au top. La semaine prochaine, on espère. Alors cette fois-ci, on fera un truc sur Peter Fonda.
Ouais.
Un truc que tu maîtrises parfaitement. Alors ça, je sais que ça, ce sujet-là, tu le, même en dormant, tu racontes l'histoire, quoi.
Bah écoute, le cinéma, c'est une histoire qui se raconte encore plus. Bah, c'est simple. Hein. Autant en musique, on imagine, on est en train de mettre en image ce que ces groupes-là ont pu composer. Autant justement pour le cinéma et Peter Fonda et toute sa génération, Dennis Hopper, Jack Nicholson, c'est justement cette image iconique de ce qu'était le début de la culture underground à l'époque.
Allô?
Oui.
Ah, ok.
Donc c'est simplement, c'est quelque chose qui est, le cinéma et la musique sont très très proches quand on essaye de ramener. C'est un peu difficile pour moi de tout décrire comme ça parce que tu sais, il y a tellement de choses à dire concernant Easy Rider et Peter Fonda et les autres personnes qui à cette époque ont fait que justement leur nom est encore cité aujourd'hui dans la culture populaire.
Bah écoute, bah la semaine prochaine, c'était avec donc plaisir qu'on t'accueillera la semaine prochaine avec le Born to Be Wild des Steppenwolf, bien évidemment. Et t'oublie pas ton casque de moto. Et tu passeras chez le coiffeur pour faire la coupe à la Peter Fonda.
Non, je préfère les avoir comme ça à la Tony Iommi. Elle est un peu, c'est un peu bordélique, mais bon, ça va.
Ok, merci.
Il y a un truc, ouais. Il y a un truc avant de se quitter, ouais. Peut-être que je suis en train de te prendre, de te bouffer
non,
du temps d'antenne, mais
pas du tout.
Ça me fait plaisir. Hein. Chaque fois, j'aime m'étendre comme ça. Mais ce serait bien d'essayer de faire participer nos chers amis qui sont en train de nous écouter pour proposer des groupes. Mmh. Les années 70-80, hein. Ce serait bien, ce serait sympa qu'ils nous disent quel groupe on voudrait, je voudrais, ils voudraient que.
Compter.
Quel groupe, voilà.
Compter l'histoire. Ok, bah on passera le message. Ok, on passera voilà. Le message. Ça marche. Merci beaucoup, Budge. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine pour le Born to Be Wild, pour le Easy Rider, le Steppenwolf, etc., etc. Peter Fonda, Jack Nicholson, Dennis Hopper, etc., etc. Je pense que ça va être une excellente session, en tout cas. Merci à toi.
Merci à toi aussi.
Allez, à la semaine prochaine. On continue en musique, donc Black Sabbath, le Cross of Thorns sur le 113 Rock, extrait donc de l'album Le Cross Pupils que Bush vient de nous conter. Et bien évidemment, ce soir, on terminera encore après avec le Arcashunt, le Sanctuary sur le 113 Rock, l'album Downfall, Arg Melodica Marcum encore pour 10 bonnes minutes. Allez, 213 Rock, c'est parti en musique, rock'n'roll.
Just turn around now, walk away. I gotta tell ya, there are no rules here. Sometimes I wonder what goes on there behind those eyes. Patience with all the lies on.